Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean Lecroix.
Salut Louis Amar, bonjour à tous.
Avec ta plus belle chemise, on vous invite à venir la voir sur RMC Sport News à la télé. À la une de la Formule 1, les pole men changent, les vainqueurs restent. Valtteri Bottas s'était lancé devant ce matin en Chine, mais c'est Lewis Hamilton qui l'a emporté. Charles Leclerc est 5e, Pierre Gasly 6e. On y revient en longueur dans un instant, vous entendrez les principaux pilotes. Et puis à 13h40, la moto et l'IndyCar dans Radio Paddock. C'est parti pour Motors, bienvenue. Adrien Tambay est là. Salut Adrien.
Salut Louis, est-ce que mon pull te plaît ?
Tout à fait, tout en sobriété, petit pull bleu.
Il est jaloux.
On
est
fait jaloux, pas mieux.
Clairement.
Et Lucas Vinoy est en direct de Chine. Salut Lucas.
Salut Louis, salut à tous. Moi j'espère que mon manteau te plaît, oui, parce qu'il fait un froid de canard dans ma cabine.
C'est vrai, il y a la clim encore dans ta cabine.
Ben je peux pas la désactiver. Ah là, c'est terrible.
Un froid canard laqué, ouais. Alors comme Théo.
Ah oui, ah ça y est. Oh 13h07.
Il est magnifique.
C'est parti. Voilà. Je crois que là on fera pas mieux. On
peut citer la en hypoglycémie.
Oui, c'est ça. Exactement. Juste avant la F1, les directs, il y en a beaucoup en ce début d'après-midi, notamment Paris-Roubaix. Salut Arnaud Souk.
Salut messieurs, excusez-moi, moi j'ai du vrai froid. Vous voyez, c'est pas de la clim, il fait vraiment très très froid à Roubaix. Le vent souffle d'ailleurs et les coureurs ont déjà parcouru 27 plus 57, ça nous fait 84 km depuis le départ. Il y a une échappée là, une nouvelle échappée qui tente de se former avec notamment le français de l'équipe Total Direct Energy, Johan Gen. On aperçoit également un coureur de Cofidis, mais depuis ce matin c'est très très compliqué. Personne n'a réussi à prendre plus de 30 secondes sur le peloton des principaux favoris. Encore 173 km à franchir, premier secteur pavé, ce sera dans 10 km le secteur de Trois-Villes.
Merci Arnaud, à tout à l'heure. En cours également un match de rugby comptant pour la 22e journée de Top 14. Il oppose le Racing 92 à Montpellier. Laurent Depré, salut Laurent.
Salut Louis. L'avantage ici, c'est qu'il fait 21 degrés 365 jours par an.
Et oui.
Tu peux te mettre en t-shirt sans problème. Ça pour te dire qu'il y a 7 à 6 pour le club visiteur pour Montpellier qui est en train de réussir sa mission malgré une quinzaine d'absents. Un essai de Benoît Payot qui l'a transformé. 7 points pour Montpellier en face. 2 buts de pénalité de Machenot. Et à signaler, c'est Montpellier qui domine cette rencontre qui a débuté il y a maintenant 35 minutes en première période.
Merci Laurent, à tout à l'heure. Si j'ai bien compris, c'est donc un début de journée placé sous le signe du textile. Donc on continue.
On peut le dire.
Allez, la F1 tout de suite.
RMC Motors. Dans le rétro.
Troisième Grand Prix de la saison et deuxième victoire déjà pour Lewis Hamilton qui nous a fait le coup classique. Il passe premier au départ, il creuse l'écart et plus personne ne le revoit. Jean-Luc, maîtrise totale.
Ils l'ont vu au stand, brièvement, oui. Pour changer de pneumatique. Non, mais c'est vrai que dans ces cas-là, il est absolument formidable. Alors, ce qui est très curieux, on s'interrogeait là-dessus avec Adrien et Lucas, bien sûr, c'est que finalement, la position sur la grille de départ n'est plus un avantage déterminant, en tout cas depuis deux Grands Prix, puisque, en l'occurrence, eh bien, à chaque fois, le premier a été devancé par le deuxième et le troisième par le quatrième. Donc, effectivement, en principe, on s'élance du côté nettoyé, avec la meilleure charge en gomme, etc. Bref, pour revenir à Hamilton, bah c'est fabuleux. 75e victoire de sa carrière, tu le disais, la deuxième consécutive. Écoute, il faut se le répéter à chaque fois, parce que je sais, on va encore nous dire, encore Hamilton, c'est un personnage formidable, c'est un des meilleurs pilotes que la Formule 1 ait jamais connu. Et à l'occasion de ce 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, bah je trouve que finalement, c'est pas mal que ce soit lui qui décroche la victoire.
Adrien ?
Oui, c'est assez symbolique, en fait, parce qu'on vit quelque chose... en ce moment, on n'a peut-être pas le recul nécessaire pour comprendre vraiment à quel point Lewis Hamilton est un grand pilote. Mais ouais, il a fait une course parfaite pour revenir sur les départs. C'est vrai que cette année, bon, c'est toujours un avantage de partir en pôle et de partir devant parce qu'on a quelques mètres d'avance. Mais c'est vrai que depuis ce règlement avec une température de chauffe au niveau des couvertures chauffantes des pneumatiques
arrière
un moindre, oui. On a les pilotes quand même qui notamment pendant le tour de formation, ont du mal à mettre les pneus en température et donc forcément, s'élancer devient plus compliqué ou en tout cas plus aléatoire et ça peut créer des erreurs. Là, pour Valtteri Bottas, apparemment, il s'est plaint d'un endroit, d'une ligne peinte qui a créé du patinage. Donc, au mauvais moment. au mauvais endroit. Voilà, quelques centièmes perdus et il a perdu l'avantage. Ouais.
On va écouter Lewis Hamilton dans un instant. On va se tourner vers Lucas Vinoy. Je vous rappelle quand même le classement. En tout cas, les 10 premiers, si vous n'étiez pas avec nous, dépoteront Minet. C'est très mal, mais c'est pas grave. Lewis Hamilton, donc vainqueur devant Valtteri Bottas et Sébastien Vettel qui complète le podium. Max Verstappen, 4e. Charles Leclerc à bord de sa Ferrari, 5e. Meilleure performance de la saison pour l'instant pour Pierre Gasly sur sa Red Bull qui est 6e. Daniel Ricciardo, pour la première fois, inscrit des points avec Renault. Il est 7e. Sergio Perez, Kimi Raikkonen et Alexander Albon marquent également des points. Romain Grosjean est 11e. On signalera également deux abandons, ceux de Gviat et de Nico Hülkenberg. Et le meilleur tour en course, il est au crédit de Pierre Gasly. Comme promis, on écoute Lewis Hamilton qui a remporté donc ce matin le 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Mais je crois que ça c'est un truc de journaliste.
Le numéro du Grand Prix n'a pas vraiment d'importance pour moi. Pour arriver à la victoire, ça a été un long chemin et j'en suis très heureux parce que cela aurait pu être un week-end un peu plus compliqué. J'étais environ à 5 dixièmes de Valtteri et si j'avais été malchanceux, j'aurais pu me lancer de la 4e ou de la 5e place sur la grille, ce qui aurait rendu le week-end bien plus compliqué. Donc je suis très heureux des étapes que nous avons su surmonter, notamment en qualification, mais aussi le départ qui a été très important aujourd'hui.
Lewis Hamilton au micro de Lucas Vinoy. Lucas, ce week-end a quand même marqué un vrai regain de forme, un vrai retour en force des Mercedes après un week-end précédent à Bahreïn où elles avaient été dominées quasiment de bout en bout par la Scuderia.
Oui, c'est vrai. Alors, pendant les essais libres 1, on a cru que Ferrari avait l'avantage puisque les Ferrari avaient réalisé le meilleur chrono, enfin un chrono très proche en tout cas des Mercedes avec un composé pneumatique plus dur. Et puis finalement, il n'en était rien. En qualification, Mercedes n'a fait qu'une bouchée de Ferrari. Et là, sur le rythme de course, je pense que les choses sont claires. Il n'y a pas eu photo entre les deux écuries. Donc oui, Mercedes était à la fête ici. Mercedes était à la fête aussi en Australie. Elle ne l'était pas, la Mercedes à la fête à Bahreïn, et pourtant au final ça fait 3 doublés pour Mercedes et un gros coup sur la tête de Ferrari.
Oui, parce que l'écart commence à se creuser très sérieusement. Il y a 31 points d'écart déjà entre Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Lewis Hamilton en tête du championnat, Sébastien Vettel n'est que 4e, Max Verstappen est devant la première des Ferrari. Alors évidemment 31 points Adrien, c'est pas grand chose, c'est à peine plus d'une victoire, il reste 18 courses. Mais ça commence à faire.
Le problème, c'est qu'on s'est déjà pris les pieds dans le tapis une fois pour les deux pilotes et au moment où on était en passe de faire un doublé. Parce oui. À Bahreïn, ils avaient clairement les deux meilleures voitures à la Scuderia. Il y a eu le problème mécanique de Charles Leclerc qui lui coûte la victoire. Il y a eu l'erreur de Sébastien Vettel qui lui coûte le podium ou peut-être la victoire. Il était en bataille avec Lewis Hamilton, mais ça fait beaucoup de points et en fait le classement aujourd'hui n'est pas vraiment représentatif de l'écart qu'il y a entre les deux écuries parce que c'est pour l'instant un coup à toi, un coup à moi de façon alternative. On ne sait pas lors du 4e Grand Prix si Mercedes aura cet avantage-là. Il l'avait en Chine. On verra à Bakou.
En revanche, il y a que 6 points d'écart entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas qui est 2e du classement général. Et ça aussi, bon, encore une fois, ça ne fait que 3 Grands Prix, mais c'est peut-être une petite surprise aussi, Jean-Luc, de voir Bottas si près du Britannique.
On avait compris dès le premier Grand Prix, dès la pole, et puis après effectivement ce Grand Prix menait tambour battant, que c'était un autre Valtteri Bottas, et Adrien qui le connaît bien en a attesté. Alors au-delà, oui, du symbole, la barbe, pas la barbe, l'attitude, tout ça, c'est pas grave, mais dans la tête de Bottas, effectivement, il s'est produit quelque chose, un déclic, il se dit que peut-être s'il doit être champion du monde un jour dans sa vie, c'est cette saison-là, parce qu'il est dans la meilleure équipe, avec la meilleure voiture, aux côtés du meilleur équipier qu'il aura jamais, donc il doit se servir de tout ça pour tirer son talent vers le haut, et c'est bien ce qu'il est en train de faire, parce que là on peut dire effectivement il termine à quelques secondes aussi, certes il a été devancé, imaginons qu'il ne l'ait pas été, peut-être que Bottas aurait mené la course en tête,
voilà, inverse,
exactement, inverse. Bon, il s'est raté au départ, enfin il s'est raté un petit peu, mais il a assuré l'essentiel, il est encore dans la course évidemment pour le titre, et il représente effectivement, comme tu le soulignais, pour Mercedes un atout de choix, et je crois qu'il va continuer à pousser, ce qui est très bien, Hamilton dans ses derniers retranchements.
Le bilan de Valtteri Bottas pour l'instant, une victoire en Australie et 2e place. Écoutez-le ce matin en Chine au micro de Lucas Vinoy.
Ce n'est pas facile de sourire après une course comme celle-ci. Je pense avoir tout perdu au départ. Malheureusement, dans le tour de formation déjà, quand j'ai essayé de m'extraire correctement de ma position de départ, j'ai touché la ligne blanche avec les roues arrière et j'ai patiné. Je pensais que ça irait mieux une fois que les pneus seraient en température. Mais ça a été la même chose. Je ne pouvais rien faire. J'ai perdu la course à cet instant.
Lucas, toi qui le côtoies tous les week-ends ou presque, Valtteri Bottas sur les circuits, est-ce qu'il est différent? Est-ce que quelque chose a changé autour de lui dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de se comporter?
Oui, dans sa façon de s'exprimer et dans son body language, il est en effet beaucoup plus conquérant. Moi, je me rappelle l'année dernière, Valtteri Bottas, quand il était devancé par Lewis Hamilton, que ce soit en qualification ou en course, il avait coutume de dire voilà, Lewis a fait un bon tour, et puis on avait l'impression presque que c'était pas grave. Là, on le sent déçu d'avoir perdu cette course. On sent qu'il est affecté, qu'il avait envie de la gagner après avoir réalisé cette belle pole position. Donc il y a vraiment quelque chose qui a changé. On sent que maintenant, il sait qu'il peut gagner, il sait qu'il peut être meilleur que Lewis Hamilton, et donc forcément quand il se fait battre par son coéquipier, tout quintuple champion du monde qu'il est, il est déçu.
Oui, pour rebondir, je crois qu'un grand champion, c'est ça. C'est quelqu'un qui est orgueilleux, effectivement, qui veut le meilleur tout le temps. Et si on est trop gentil, bah malheureusement, peut-être qu'on ne sort pas toutes les qualités dont on serait capable. Enfin, l'agressivité, en l'occurrence, quand on veut être champion du monde, bah ça fait partie du package.
Après, on peut aussi imaginer. Enfin, j'ai entendu dire que voilà, Valtteri Bottas est sous pression parce que il y a Ocon derrière, et c'est peut-être pour ça qu'il a élevé son niveau de jeu. Mais moi, je pense au fond de moi que c'est peut-être l'inverse. C'est qu'on aurait pu avoir Ocon dans la voiture. Et on lui a montré chez Mercedes qu'on lui faisait confiance.
Bien sûr.
L'année dernière compliquée.
Que tu pensais fébrile, pardon. L'année dernière, tu le trouvais fébrile, Bottas? Accroché à sa place un peu avec angoisse?
Même peut-être plus fébrile, en tout cas certainement plus fébrile que cette année.
D'accord.
Et peut-être, ouais, sur à un moment donné sur la sellette, parce qu'il était en manque de performance, alors que dans sa première année chez Mercedes, il nous a quand même fait des belles courses et des pôles, des victoires devant Lewis Hamilton. Il a eu une deuxième année plus difficile que sa première année.
Clairement.
Donc forcément un peu de fébrilité. Au final, faut rappeler, hein, Toto Wolff était son manager depuis la Formule 3. Quand j'étais coéquipier de Valtteri Bottas, Toto Wolff était son manager. Il n'est pas encore à la tête de Mercedes, mais ça montre à quel point il y a quand même une relation de confiance. Et là, il a une confirmation, donc peut-être qu'il est beaucoup plus serein aussi.
Et puis on rappelle qu'il a joué le jeu l'an dernier. Il a laissé une victoire à Hamilton en Russie.
Oui.
Donc de bon cœur et sans discuter, sans renacler. Bon,
oui,
c'était.
T'as raison, Jean-Luc. Moi, je trouve que il a pas. Enfin, l'année dernière, moi, je trouve que les gens sont très sévères. On est très sévères avec Valtteri Bottas. Mmh. Il a laissé une victoire en Russie à Lewis Hamilton. À Bakou, Louis, tu t'en rappelles. Il est en tête, il doit remporter cette course et malheureusement il roule sur ce débris et puis finalement il crève et il termine en dehors du podium. En Autriche, il est devant, il va l'emporter et il est en proie à un souci mécanique. Il aurait dû s'imposer quasiment trois fois l'année dernière, Valtteri Bottas. Ouais, et entre zéro victoire et trois victoires, la différence elle est quand même énorme. Et donc il sait qu'il a confiance en ses capacités, il a confiance en ses capacités, mais Bottas n'était pas mauvais l'année dernière et il n'est pas devenu bon cette année.
On peut l'appliquer à d'autres et je pense qu'on va y venir dans l'émission. Ben
absolument.
Oui, évidemment.
Juste avant qu'on parle en détail de la Scuderia, finalement on a l'impression que le film se répète un peu chaque année. Que pendant l'intersaison, on nous annonce une concurrence féroce, des Ferrari très fortes, des Mercedes inquiètes, et puis finalement, après trois Grands Prix, c'est trois voitures grises qui l'emportent. Qui a bluffé?
Je crois personne. Je crois qu'on est encore tôt dans la saison. Il y a eu trois grands prix, dont un où la Ferrari était supérieure à la Mercedes, clairement.
Aurait dû gagner le dernier à Bahreïn.
À Bahreïn, c'était il y a deux semaines.
Et peut-être faire le doublé.
C'était il y a deux semaines seulement. Je pense pas que Mercedes ait révolutionné sa voiture depuis une course, ou en tout cas en deux semaines. Donc il va falloir attendre de voir si la Scuderia arrive à réagir et à tenir cette amélioration et ce développement tout au long de l'année. C'est ça qui est le plus compliqué par rapport à une grosse force de frappe comme Mercedes.
C'est volontairement provocateur, mais on a quand même l'impression que la malchance, ça bat toujours sur les mêmes.
Il y a quand même une fatalité qu'on peut provoquer. Je pense qu'on va aborder évidemment le sujet des rouges. Je crois que oui, si on se prend les pieds dans le tapis un peu trop souvent, forcément la fatalité, elle s'abat toujours sur les mêmes. Effectivement, il faut commettre le moins d'erreurs possible. Et je crois que la force de Mercedes, et Toto Wolff l'a dit, ce n'était pas que des mots l'an dernier. Mercedes n'a pas toujours été la meilleure équipe du championnat du monde de Formule 1. Or, Mercedes l'a emporté, a écrasé le championnat parce que Ferrari a raté des marches, soit humaines, soit techniquement, soit stratégiquement.
La Scuderia, on y vient justement, mesdames et messieurs, il est 13h20 et Jean-Luc Roy n'est pas content.
RMC Motors, le coup de volant.
On t'écoute.
Alors oui, là je vais essayer de peser chacun de mes mots parce que je sais, et c'est normal, d'abord je répète une nouvelle fois en préambule que moi aussi j'adore la Scuderia Ferrari, évidemment que c'est une équipe mythique et qu'on ne peut que la respecter infiniment pour tout ce qu'elle a fait pendant ces 1000 Grands Prix.
Mais
maintenant je ne comprends pas. Là j'avoue que quand, après 10 tours seulement, alors que les deux Ferrari sont pas très loin des deux Mercedes qui sont devant, que effectivement les deux hommes sont du même niveau, c'est-à-dire qu'on a Charles Leclerc qui a pris l'avantage sur Vettel au décollage, j'allais dire à l'envol, et qui est dans un rythme où il ménage ses pneumatiques, parce que c'est le but. Alors Vettel est derrière à une seconde deux, pas vraiment en position de l'attaquer, lui maintient la pression, on va dire. À ce moment-là, la radio grésille, et on dit à Charles, il va falloir que tu laisses passer. Non, on lui dit d'abord, le premier, on lui dit, il faut que tu hausses ton niveau, justement, pour confirmer ton rythme, etc. Il dit, ok, je m'y mets. Et immédiatement après, dans le même tour, je dis pas de bêtises, on lui dit, ah ben non, finalement, tu vas laisser passer Vettel, qui est plus rapide que toi. On imagine que Vettel avait dit « je suis plus rapide que lui ». Donc là, évidemment, il s'exécute. Charles laisse passer Vettel. Et à la différence de ce qui s'était passé à Bahreïn, où Charles avait été conquérir la position devant Vettel à la pointe de l'épée grâce à une attaque magnifique, eh bien là non, on s'aperçoit que Vettel ne s'en va pas et au contraire commence à commettre des erreurs, allumer un pneu par-ci, un pneu par-là, alors que derrière, Charles gère ses pneus. Bref, je vais la faire claire, je ne comprends pas la stratégie adoptée par Ferrari beaucoup trop tôt dans la course. Si Vettel était plus rapide, il fallait qu'il le démontre, premièrement. Et deuxièmement, après, on plante littéralement la course de Charles, à tel point que Verstappen se rapproche, puisque Vettel n'est pas assez rapide, il vient au contact, on les arrête, et on arrête Charles trop tard, donc total, même pour Ferrari, eh bien Charles ne termine que cinquième, comme l'a dit Vettel lui-même, on aurait dû faire 3 et 4, bah oui, mais dans quel ordre, oui. Je pose. Et 3 et 4, c'était Charles Leclerc devant Sébastien Vettel.
Voilà, avant qu'on écoute Sébastien Vettel, ton avis, Adrien, là-dessus, est-ce que tu partages la colère de Jean-Luc?
Colère, non, mais je partage l'avis de Jean-Luc sur le fait que c'est une erreur manifeste de stratégie en soi. Voilà, chacun a le droit d'avoir sa stratégie. La Scuderia l'a dit, Mattia Binotto l'a dit, en condition de 50-50, on est encore tôt dans le championnat. Là, il y avait un rythme qui était similaire. On a donné sa chance à Sébastien Vettel en inversant les positions. Maintenant, ça a été fait au mauvais moment.
Ouais.
Parce
trop
que tout simplement, on a pensé juger que Sébastien Vettel était plus rapide.
C'était faux.
Alors que on avait demandé un tour avant à Charles Leclerc d'osser son rythme
ce qu'il était
de course,
en train
ce qu'il
de
était
faire.
En train de faire, il commençait à prendre l'avantage et on lui donne l'ordre contradictoire un tour plus tard de laisser passer alors qu'il avait pris une seconde et demie d'avance quasiment sur Sébastien Vettel.
Quoi.
Le résultat, c'est que à ce moment-là, Charles Leclerc perd trop de temps pour laisser passer Sébastien Vettel. Qu'est-ce qui se passe? Les deux Ferrari perdent en tout
beaucoup de temps,
au moins 3 secondes sur les Mercedes, donc déjà pour aller gagner le Grand Prix.
Et ça permet à Verstappen de revenir et de placer une attaque après le changement de pneumatique.
Donc là, on
concrétise l'erreur.
Ça permet à Verstappen de revenir, et en plus de ça, après, on réagit pas assez vite pour re-switcher les deux pilotes. Et on s'enterre dans l'erreur.
Et on laisse Charles trop longtemps en piste, alors que il suffit, on n'est pas ingénieur, mais on regarde les temps, et on comprend tout de suite qu'il y a une dérive des temps de Charles qu'on a laissé trop longtemps en piste.
Exactement.
Voilà. On va écouter, avant la réaction de Lucas Vinoy, Sébastien Vettel évoquer justement cette stratégie d'équipe ce matin en Chine.
Je pense que j'étais plus rapide au début, bien sûr, derrière lui, je dégradais mes pneus, et quand je l'ai passé, j'ai eu du mal à trouver un bon rythme. Au bout de quelques tours, j'étais capable d'aller un peu plus vite, mais les Mercedes étaient déjà très loin devant. Nous devons savoir ce que nous aurions dû faire de mieux pour que nous finissions 3e et 4e. Notre course était un peu différente après ça et c'est toujours un peu compliqué. Je pense que nous avons fait un bon jeu d'équipe. Comme je l'ai dit, un bon résultat aujourd'hui aurait été de finir 3e et 4e et non 3e et 5e.
Adrien, tu veux réagir sur cette déclaration?
Oui, je pense qu'au final, le plus malin dans l'histoire et celui qui pousse la Scuderia à faire ses erreurs, c'est Sébastien Vettel. Parce qu'il y a une part de sournoiserie là-dedans, on
c'est de la politique.
C'est de la politique.
C'est de la politique.
Et on sait très bien, il le sait très bien qu'il était pas plus rapide.
Mais bien sûr, il était gêné
avant de dépasser.
T'as vu son visage.
Avant de dépasser Charles Leclerc, avant d'avoir l'autorisation de le passer, il le savait très bien au fond de lui qu'il était pas plus rapide.
Bien sûr.
Mais il savait que c'était
important.
Il
voulait la primeur.
De voilà. Passer à ce point. Et c'est à son honneur, parce qu'il le sait qu'il est en position de force, et s'il le faisait pas, c'est pas un vainqueur. Les gens qui ont envie de gagner des championnats du monde de Formule 1 sont prêts à tout. Et là, il se sert de sa situation, c'est tout à fait normal. Et c'est à Charles, dans cette situation-là, la seule solution pour lui, c'est d'élever encore son niveau de jeu et d'être clairement plus rapide que Vettel.
Lucas, toi qui avais Sébastien Vettel en face de toi tout à l'heure, il y a quelques heures à peine, est-ce que tu l'as senti un petit peu penaud?
Ouais, je l'ai senti un petit peu gêné. Puis pour moi, Sébastien Vettel est vraiment quelqu'un d'assez honnête. Et à mon avis, il n'avait pas forcément le recul nécessaire pour se rendre compte aussi. Peut-être que je suis naïf, hein, mais pour se rendre compte qu'il n'était pas forcément beaucoup plus rapide que lui. Il arrivait à le tenir grâce au DRS. En fait, juste grâce à ça, c'est vrai qu'il se rapprochait considérablement dans la ligne droite des stands et dans la très longue ligne droite qui fait 1,4 km de long. Après, en conférence de presse, quand il est passé en conférence de presse devant les journalistes de presse écrite, son discours avait déjà changé et il disait que peut-être que c'était pas la bonne solution et que Ferrari s'était peut-être un petit peu trompé. Donc il reconnaissait déjà peut-être son erreur. Après, maintenant, il est premier pilote. Il sait qu'en 4-50-50, c'est à lui qu'on donne les faveurs. C'était 50-50, ils avaient tous les deux le même rythme. Il en a profité, il est passé. Après, la catastrophe derrière, c'est que Ferrari n'est pas capable de gérer une stratégie pour Charles Leclerc, le laisse en piste et il termine cinquième.
Oui, mais voilà, je répète que du côté de Ferrari, on doit placer ces deux pilotes aux meilleures positions possibles. On ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, Vettel l'a dit, je crois qu'on est tous d'accord, Verstappen n'aurait jamais dû pouvoir revenir sur les Ferrari. Il est revenu sur les Ferrari parce qu'on avait fait passer Vettel devant Leclerc et tout ça a permis à Verstappen de recoller au peloton. Et ensuite, à la faveur des arrêts, en arrêtant Charles trop tard, eh bien, on avait positionné Verstappen et Vettel devant. Voilà.
Ils ont donc clairement pris l'eau.
Ils ont pris l'eau. Ça commence. Ça veut dire que c'est une hémorragie de points, d'ores et déjà. Ça veut dire qu'on crée des tensions, voire des frustrations chez les deux pilotes. Moi, je dis parce qu'effectivement, Vettel est un malin. On n'est pas quatre fois champion du monde pour rien. Et moi aussi, je le respecte infiniment. Et je pense que le mec, on va pas mettre de la sournoiseté partout. Je dis simplement ce que je pense. Mais je pense que là, c'est une erreur. Et quand la poussière va être retombée, et Charles a eu cette très belle déclaration également, il a dit peut-être dans le baquet, on ne voit pas les choses comme on les voit du bord de la piste. On en reparlera plus tard. Mais c'est lui qui avait raison.
Ouais. On va l'écouter justement, Charles Leclerc, à ton micro, Lucas.
Plutôt bon départ. Après, je pense que voilà, la perfo elle était pas aussi bonne que celle de Mercedes. Mais bon, j'étais pas ridicule. Donc le premier relais, j'ai essayé de garder un petit peu les pneus. Après, je crois qu'il y avait Seb qui poussait pas mal derrière, donc ils m'ont demandé de switcher. Quand on a switché, malheureusement, on avait exactement la même perfo. Donc je suis resté derrière. J'ai encore plus abîmé les pneus. Et voilà. Après, je suis resté un petit peu plus longtemps dehors. Je ne sais pas pour quelle raison, faut que je demande au team. Pas une bonne course aujourd'hui pour nous, mais bon, on essaiera de rebondir sur à la prochaine course.
Charles Leclerc au micro de Lucas Vinois. Messieurs, vous restez avec nous. Le débrief du Grand Prix de Chine reprend dans quelques minutes. D'abord le direct, c'est la mi-temps au rugby. 22e journée de top 14, Racing Montpellier, Laurent Depré.
Et oui, et ça a été pénible et laborieux pour les deux équipes. On pensait que la mi-temps serait sifflée sur un avantage de 12-6 pour Montpellier, mais finalement, au courage, et parce que bénéficiant d'une supériorité numérique, Chilachava, carton jaune pour faute répétée de son équipe sur sa ligne, eh bien, les Racingmen ont réussi à inscrire enfin un essai par Bernard Leroux, transformé par Max Schnau, et si bien que le score désormais et de 13-12 pour le Racing. À tout à l'heure
Laurent. Le vélo, sommes-nous déjà dans le premier secteur pavé de Paris-Roubaix, Arnaud Souk?
On l'a même franchi, Louis, pavé entre Trois-Villes et Inchy. 157 km de son encore à parcourir pour 9 hommes de tête, parmi lesquels on retrouve notamment deux Français, Alexis Goujard de l'équipage E2R La Mondiale et Damien Godin de Total Direct Energy. Derrière, un groupe de 17 poursuivants sont pointés à quelques secondes, et parmi eux il y a notamment des deux Deconinck Quickstep, je pense à Yves Lampart, je pense également à Tim De Clercq, et puis un autre Français de l'équipe team de Total Direct Energy, c'est Adrien Petit. Ça va très très bien en ce début de course pour l'équipe vendéenne. Le peloton lui est pointé à 42 secondes.
Merci Arnaud, à tout à l'heure. Évidemment, Paris-Roubaix à suivre en direct tout au long de l'après-midi sur RMC. On te retrouvera avec Cyril Guivard après 14h dans l'Intégral Sport. Motors revient tout de suite.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h32 sur RMC et RMC Sport News. On était avec Jean-Luc Roy, Adrien Tambay et Lucas Vinois en direct jusqu'à 14h. Le débrief du Grand Prix de Chine se poursuit dans un instant. Avant ça, nouveau détour par la route de Paris-Roubaix, Noussouk.
Oui, avec toujours 23 hommes en tête à 157 km désormais de l'arrivée, et ils vont franchir dans quelques minutes le deuxième secteur pavé de Briastra-Vielli. Secteur important puisque en tout cas un hommage a été rendu ce matin, a été rendu hier hier à la réunion de directeurs sportifs avec une minute de silence en l'honneur de Michael Gollertz, le coureur qui est décédé l'an passé justement sur ce secteur de Briastre à Vielly, qui sera franchi dans quelques instants par les 23 hommes de tête qui possèdent 35 secondes d'avance sur le peloton. On rappelle des Français, notamment dans ce groupe de tête, Adrien Petit et Damien Gaudin.
Merci Arnaud, à tout à l'heure. 13h33, on revient à la F1 et on en arrive à nos Français.
RMC Motors, le French's Corner.
Et le premier d'entre eux avait tout intérêt à être performant ce week-end. Le premier d'entre eux, c'est Pierre Gasly en sixième position. Lucas, c'est un résultat important, un résultat qui va compter pour Pierre Gasly, qui était au cœur de rumeurs parfois inquiétantes avant ce week-end.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le problème de Pierre Gasly, c'est que son début de saison n'a pas été bon. Il a mis deux voitures dans le rail. C'était aux essais de Barcelone. Ensuite, une contre-performance aux qualifications en Australie. Seulement une 11e place. À Bahreïn, ça a été compliqué aussi. Une 8e place. Et là, il termine 6e. Donc, le dernier des top teams. Mais bon, il termine à la 6e place. Ça lui permet de marquer des points. Et surtout, il prend le point du meilleur tour, ce qui va lui donner un petit peu de confiance. On sait qu'il est à la recherche de confiance, Pierre Gasly, et on sait aussi que certaines déclarations de la part de certaines personnes plutôt haut placées chez Red Bull n'ont pas aidé à lui permettre d'aller chercher les dixièmes qui lui manquent, puisqu'il se sent en plus pas très très bien à l'intérieur de cette monoplace pour l'instant.
Il fallait performer ce week-end, hein, Jean-Luc, pour Gasly.
C'était absolument indispensable de commettre le sans faute. Il l'a commis. Alors maintenant, je pense que Adrien, évidemment, va rebondir là-dessus. Son niveau de performance, il le sait pertinemment, Pierre, n'est pas suffisamment élevé. Qu'il se retrouve derrière Verstappen, c'est tout à fait logique. À 2, 3, les 4 dixièmes, c'est possible. À 8, 9 ou une seconde, 8, 9 dixièmes ou une seconde, non. Ça n'est pas possible. Donc il y a un problème quelque part. De quelle nature est-il ? Est-ce qu'il dispose véritablement de la même monoplace avec la même performance ? Ça, seule l'écurie Red Bull Honda le sait. On sait qu'il a des liens, et j'insiste un petit peu là-dessus, avec cette équipe Honda qui vont forcément aussi au bénéfice de l'équipe, puisque c'est aussi pour ça qu'on l'a recruté et qu'on l'a fait monter dans cette équipe Red Bull, motorisée par le japonais maintenant. Il n'est pas devenu ni mauvais ni moyen pilote comme ça d'un coup de baguette magique, donc il n'est pas à son niveau, pour être clair. C'est très bien qu'il ait eu cette petite cerise sur le gâteau avec ce point qu'il a été cherché dans l'avant-dernier tour. On l'a arrêté, on lui a mis les pneus les plus performants, les pneus soft, et il a fait le boulot, c'est-à-dire qu'il a été chercher ce point. Maintenant, on attend un peu mieux de lui, et je sais que lui aussi attend un peu mieux de lui.
Adri ?
Oui, sur le papier, bah, vous l'avez tous les deux dit, il fait le boulot, il ramène les points, donc c'est un bon week-end parce qu'il a fait le mieux qu'il pouvait avec les performances du week-end. Mais si on regarde un peu plus loin, en profondeur, on voit quelque part que c'est le week-end où il a été le moins performant par rapport à son coéquipier en rythme de course.
Ouais.
C'est là où il y a le plus d'écart, c'est vrai. Et c'est là qu'il fait son meilleur résultat. Donc déjà, ça veut dire que lui... Moi je prends le positif. Ça veut dire que lui fait le maximum de ce qu'il peut faire avec sa capacité du moment, avec sa voiture. Maintenant, le minimum que j'ai vu comme écart entre les deux pilotes, entre lui et son coéquipier Max Verstappen, c'est 6 dixièmes. Et 6 dixièmes en Formule 1,
c'est trop.
C'est énorme.
C'est trop.
C'est même pas la différence entre un très bon et un bon. C'est beaucoup trop. Alors, penser que c'est seulement de la confiance, un manque de confiance de la part de Pierre, possible. Il y a autre chose. De là à dire que les voitures sont différentes, pas forcément.
Mais on a le droit de poser la question.
Peut-être que Pierre n'a pas trouvé les bons réglages qui conviennent à son style de pilotage et va dans des directions différentes de son coéquipier au début d'un week-end de course. Ce qui corroborerait le fait que là, ici, il y avait plus d'écart que sur les autres Grands Prix. Par contre, c'est étrange. C'est trop, et il va falloir bosser pour Pierre, mais surtout pas perdre la confiance, parce qu'il a pas oublié, comment conduire.
De savoir tourner un volant.
L'année dernière et cette année.
Simplement.
Lucas, t'as compris ta mission, dans 15 jours en Azerbaïdjan. Tu te glisses dans le garage Red Bull, tu fais comme tu veux, tu te débrouilles, et tu regardes les deux monoplaces et tu nous dis si ce sont les mêmes ou pas.
Je pense que c'est pas dangereux du tout, en plus.
Non, pas du tout, pas dangereux, tu risques pas
chez
du tout
Red
de
Bull,
te faire ton accréditation.
Voilà, je vais,
Christian Horner va tenir la main, ça c'est sûr.
Bien sûr, il était sympathique, cet Horner, en
plus. Très accueillant, très chaleureux.
Lucas, rapidement, comment il était Pierre Gasly devant toi tout à l'heure ? Qu'a-t-il dit en substance à ton micro ?
senti soulagé. On l'a senti quand même un petit peu soulagé. Alors il est conscient du travail qu'il reste à faire, mais je l'ai trouvé un petit peu plus positif par rapport à toutes ces déclarations du début de saison. Il avait un peu la tête dans le sac hein, quand même jeudi lors de la journée des médias. Et puis voilà, il était positif. Il disait qu'il était content, qu'il allait partir en Angleterre dès ce soir pour travailler deux jours au simulateur à Milton Keynes. Donc on sent qu'il est voilà, il voit plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est quand même mieux. Alors qu'il y a quelques jours, c'était plutôt l'inverse, donc on sent quand même un progrès à ce niveau-là.
On va voir comment il voit le verre, lui. Romain Grosjean, il s'est classé 11e de ce Grand Prix de Chine. On l'écoute à ton micro, Lucas.
Honnêtement, c'est pas où on doit être. On a souffert. À Bahreïn, ici, on a souffert un petit peu. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe. L'utilisation des gommes, honnêtement, quand on a mis les softs à la fin, pardon, les médiums, les jaunes, à la fin, je suis sorti des temps au premier tour, la caisse d'une bombe. Deuxième tour, vous avez perdu une seconde et vous y arrivez plus. Donc, on a un vrai problème avec les pneumatiques parce que ça nous pénalise pas mal en course. Je pense que la voiture, il y a une bonne base, mais on n'arrive juste pas à faire marcher ses gommes. Tout le temps la même chose. Hein, c'est malheureusement pénible aujourd'hui en Formule 1. On passe notre temps à essayer de régler pour que les pneus fonctionnent. Après, je pense que je fais une bonne course, je fais des bons dépassements, je fais un bon premier tour, je donne le maximum, mais c'est extrêmement frustrant, voilà, de donner à fond du début à la fin pour faire 11e.
Il attend toujours ses premiers points de la saison, Romain Grosjean. Moindre mal quand même ce week-end, Adrien, au moins son équipier, lui non plus, n'a pas marqué de points, Kevin Magnussen.
Oui, voilà, il est devant son coéquipier, c'est le principal, il est à la fin de cette course, semble-t-il quand même sa monoplace qui lui a pas permis d'aller chercher plus loin, un problème de dégradation de pneus et d'utilisation de ces pneumatiques. Je pense que tout le monde a été surpris ce week-end, les températures étaient plus élevées que les années précédentes et toutes les écuries en général ont été surprises, et c'était le cas pour As. Maintenant il faut continuer à bosser pour Romain et il n'y a pas de raison pour que ça finisse pas par tourner à son avantage.
Oui, la roue tourne va tourner, comme disait le poète Jean-Luc.
Et puis on rappelle quand même qu'ils ont tout le train arrière de la Ferrari comme l'Alfa Romeo, et on voit que Kimi Raikkonen réalise des exploits, j'ose le dire. Bien parce sûr. Qu'il a fait une remontée magnifique, Kimi, hein. C'est un régal de voir un type de 38 ans continuer à attaquer comme ça. Je fais le parallèle avec Rossi qui est deuxième, on va en parler tout à l'heure avec Benoît sur la grille de départ du Grand Prix des Amériques. Bah écoute, ça veut dire que l'âge n'a pas de prise sur les vrais talents, et ça veut dire que Kimi Raikkonen est bien là avec un... Alors j'en reviens à Haas, donc ils ont tout le train arrière Ferrari, le moteur Ferrari qui pousse, hein. Donc effectivement il y a quelque chose qui ne va pas, mais attendons un petit peu, attendons l'Azerbaïdjan et peut-être surtout Barcelone pour trouver, j'espère, l'équipe Haas à un niveau et les mettre dans les points régulièrement.
Pierre Gasly 6e, Romain Grosjean 11e, voilà donc pour les pilotes français. Pour ce qui est de l'écurie française, Renault, ça a encore été assez compliqué. Fortune diverse pour les deux pilotes de l'écurie au losange, puisque Nico Hülkenberg a abandonné après seulement 16 tours. En revanche, Daniel Ricciardo, lui, pour la première fois de la saison, s'est hissé dans les points. Écoutez au micro de Lucas son soulagement.
Yes, we finished. That was
enfin, nous avons terminé une course. Finir est quelque chose de positif. Septième, c'était le meilleur résultat auquel nous pouvions prétendre. Pendant les premiers tours, Gasly était un peu plus rapide, mais pas plus que ça. Mais après, il a mis une grande distance entre nous. La bagarre était avec Perez. Il a mis une grosse pression pendant toute la course et ce n'était pas facile. Septième, c'est bien, mais nous aurions préféré être plus loin du milieu du peloton et plus proche de l'avant de la course.
Enfin, nous avons terminé une course. Faut savoir se satisfaire de peu parfois.
Oui, et puis son coéquipier l'a pas terminé cette course.
C'est vrai.
Donc ils sont pas à l'abri de
ces problèmes
de fiabilité. Et même si à la fin de cette course ils sont les premiers des autres avec cette septième place, ils sont super loin. C'est ça le problème. Il y a un déficit de performance quand même de la part de la Renault qui est presque, je dirais, pire que l'année dernière. Donc, ça va pas dans le bon sens. Hein. C'est un grand constructeur. On devrait s'améliorer, se rapprocher des grosses écuries de Ferrari et de Mercedes. Et c'est pas le cas.
Et je crains pour parler des moteurs pour le moment, parce que là, on avait une comparaison qui était claire. On pouvait dire que l'an dernier, eh bien, le meilleur moteur c'était le Mercedes. Hein. Le Ferrari était trop proche, juste derrière. Je pense que c'est presque l'inverse cette année, très proche. Et puis derrière, on avait le Renault et on avait le Honda. Est-ce que c'est ça, au vu des trois premiers Grands Prix? Non. Moi, je dis que le Honda semble, avec un excellent châssis, on le sait bien, mais même dans la Toro Rosso, il fonctionne très bien. Donc, je pense que le Honda a fait des progrès considérables. Et j'ose dire, et avec l'infiniment de respect aussi pour tous les amis de Véry Châtillon qui travaillent, que le moteur Renault est peut-être le moins performant des quatre moteurs en Formule 1 aujourd'hui. Comme le châssis n'est pas exceptionnel sur la Renault, y a un vrai souci. Hein. Là aussi, on peut se poser la question différemment et se dire comment se serait comportée aujourd'hui la Red Bull avec un moteur Renault. Est-ce qu'elle aurait été capable de combattre les Ferrari comme elle l'a fait? Je ne sais pas.
Lucas, dans le paddock, loin des micros, quelle est l'attitude des dirigeants de Renault? Est-ce qu'on promet des jours meilleurs ou est-ce qu'on est inquiet?
On était inquiet parce que le nouveau patron de Renault, Thierry Bolloré, était là, donc il fallait plutôt réussir cette course. Alors elle a été réussie à 50% parce que Nico Hülkenberg a abandonné. Ça fait beaucoup trop d'abandon en fait depuis le début de saison. Un coup c'est Ricciardo, c'était en Australie, un coup c'est Hülkenberg, finalement c'était les deux à Bahreïn. C'est quand même un bilan qui est pas catastrophique, mais qui est quand même pas bon du tout pour Renault. Alors certes, apparemment on se réjouit d'avoir gagné quelques chevaux au niveau du moteur, mais si c'est pour perdre en fiabilité de l'autre côté, c'est pas forcément mieux. Donc voilà, il faut trouver un équilibre. C'est vrai qu'ils ont l'air, en tout cas, d'être plus compétitifs que l'ensemble du milieu de peloton. Ça a l'air d'être la meilleure écurie des autres en termes de performance pure. Mais c'est vrai qu'ils ne se sont absolument pas rapprochés des trois top teams. Et on rappelle que l'objectif, c'est quand même être champion du monde en 2021. Donc là, on voit pas comment on pourrait y arriver.
Lucas Vinoy, envoyé spécial RMC Sport sur tous les grands prix, évidemment. Merci beaucoup, Lucas.
Salut,
d'avoir
Lucas.
Été avec nous. Tu as le droit de rentrer en France. C'est bon. Tu es libre.
À très vite.
Et on te retrouve. Mais oui, dans 15 jours, à Bakou, en Azerbaïdjan, pour le 3e et dernier épisode de la tournée des droits de l'homme.
Un petit peu plus libre qu'à Shanghai.
Après Bahreïn,
la tournée des droits de l'homme. C'est magnifique.
Bien sûr.
J'ai suggéré des pays un petit peu plus libres, peut-être à Tcheskaré.
Oui, bien sûr. Mais attends, t'inquiète pas, la Russie arrive un peu plus tard.
Et ça me fait peur parce qu'il a dit que peut-être que ce serait bien d'organiser un deuxième Grand Prix en Chine. Je sais que ça t'aurait réjoui, Louis.
Oui, bien sûr, c'est ça. Merci beaucoup Lucas. Si la douane te laisse passer, reviens-nous vite.
Oui.
Les directs, messieurs, vous, Jean-Luc, Adrien, vous restez avec moi évidemment.
Oui, on reste au
chaud. Les directs, c'est reparti au rugby. Racing Montpellier, Laurent Depré.
Ah, effectivement, reparti depuis un peu plus de 3 minutes en deuxième période. On s'était quitté sur un score favorable et dans la douleur au Racing 13-12 grâce à un essai inscrit non pas par Bernard Leroux mais par un autre troisième ligne casqué, c'est-à-dire Baptiste Chouzenou. Et dès l'entame de la deuxième période, pénalité des 50 mètres de Benoît Payog et c'est Montpellier qui prend à nouveau l'avantage pour mener 15-13, il reste 36 minutes à jouer dans cette seconde période.
À tout à l'heure, Laurent. Paris-Roubaix, Arnaud Souk, qu'en est-on?
Secteur pavé numéro 26 pour les hommes de tête. On apprécie particulièrement dans ce groupe de 23 après qui reste à parcourir 145 km 800 et qui a 49 secondes d'avance sur le peloton. On apprécie particulièrement de voir notamment Adrien Petit, le coureur de Total Direct Energy, spécialiste des pavés, mais justement tenir le haut du pavé dans cette échappée qui pour l'instant donc possède 52 secondes d'avance.
Bravo, tenir le haut du pavé.
Mais ça vient de là, les meilleurs tiennent le haut du pavé.
Bravo, j'en lui crois beaucoup apprécié.
Ah oui, là je le trouve magnifique.
Tu sais, c'est notre référent jeu de mots.
Hein. Très à propos.
Mais c'est pas un jeu de mots. Hein.
Oui, non, c'est pas un...
C'est l'expression.
Oui, d'accord. Bon, très bien. T'as raison, c'était pas un jeu de mots. Merci beaucoup. Allez, 13h45.
On l'inscrit quand même.
Vous voulez que je parle de canard laqué ou pas?
Oui.
Par exemple.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h47 sur RMC et RMC Sport News Motors en direct avec Jean-Luc Roy, avec Adrien Tambay, avec Benoît Boutron qui nous a rejoint. On est ensemble jusqu'à 14h. À 14h, vous retrouverez l'Intégral Sport avec Christophe Cessieux. Il y a plein de belles choses cet après-midi. Il y a Paris-Roubaix, il y a trois matchs de Ligue 1 et il y a le grand choc du top 14 entre le premier et le deuxième, Toulouse-Clermont. Mais tout de suite, Radio Paddock.
RMC Motors. World Champion! Oh my God! I can't believe it! Thank you so much, guys! Radio Paddock.
Avec Benoît Boutron.
Salut Lucho, salut Adrien, salut le King.
Salut Benoît.
Tu l'as fait.
Eh oui, voilà.
C'est cool.
T'as pas fait le marathon, Benoît?
Ah non, pas cette année.
D'accord.
La première fois depuis 6 ans que je le fais.
Il est excusé.
Eh oui.
Ça ira pour cette fois.
J'ai reçu un texto de ma femme qui m'a dit ça fait très Miami 70.
On y est.
Et je lui ai dit ça correspond au personnage.
70, t'es sûr?
Ouais.
1870, j'avais oublié de préciser.
Merci, voilà. Lui, elle m'a fantastique. cette chemise.
Extraordinaire.
Bravo, bravo, je suis ravi qu'elle vous plaise.
Ah oui, oui. Là, on fera pas mieux.
De la moto quand même. Entre deux chemises.
Évidemment, on a ce Grand Prix des Amériques au Texas. Mmh. Et encore une fois, la pole pour Marc Marquez. C'est quand même assez hallucinant. Puisque c'est la 7e fois qu'il se rend aux Amériques, 7e fois qu'il décroche la pole. Jean-Luc, tu as une mission. Nous expliquer pourquoi il est si fort aux Amériques. J'ai lu ça ce matin, mais toi, tu vas mieux nous l'expliquer que ce qui a été écrit dans les différents articles sur la pole de Marc Marquez. Il est très fort sur les circuits qui tournent à gauche, en fait, à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre. Et je crois qu'il y a une explication, Jean-Luc.
Alors, on peut effectivement le voir comme ça. Bah, déjà, il a un style de pilotage qui lui est particulier, une nouvelle fois. Marquez, qu'il a de différent des autres, par exemple, c'est que on lui reproche parfois de chuter souvent en essai, jamais dans des endroits dangereux et à haute vitesse, parce qu'il va tester justement ce fameux pneu avant et sa perception du pneu avant. Donc, il va véritablement chercher les limites. Quand on pense que maintenant, et moi je l'ai vu à plusieurs reprises atteindre 62-63, mais je crois que le record homologué, c'est 67 degrés par rapport à la verticale. Ça veut dire qu'il prend un angle absolument sidérant. Ouais. Il est totalement en dehors de sa machine, comme on l'a vu, puisque c'est lui le premier qui a frotté le coude. Maintenant, d'autres le font. Donc, il en est. Donc, il a ce style de pilotage qui fait corps avec la machine. Il a le gabarit absolument et il a l'évolution de la machine qui lui convient merveilleusement. Alors oui, après, on peut dire qu'effectivement, il y a les circuits qui tournent à gauche et puis on le sait, quelques circuits qui tournent à droite. La majorité quand même tourne à gauche. Donc, c'est un avantage peut-être pour lui. Maintenant, j'avoue que j'ai pas lu le papier auquel tu fais référence. Alors, je vois pas pourquoi à gauche.
L'explication donnée, c'est que c'est un spécialiste du dirt track.
Bien sûr.
C'est vrai qu'il fait beaucoup de
dirt track. Oui, évidemment.
En fait, c'est une course ovale sur
terre. Ça tourne à gauche.
Alors, je vais te dire,
on a cru que t'avais piégé Jean-Luc quand même.
Non, on a cru qu'il n'avait pas l'explication.
Jamais.
En revanche, beaucoup de pilotes depuis l'arrivée des pilotes américains. Alors là, je peux vous parler de Kenny Roberts. Ça va vous parler quand même, qui a été 3 fois champion du monde consécutivement à la fin des années 70 et qui lui venait du number one américain où effectivement, on tourne toujours sur des pistes en cendré, c'est ce qu'on appelle le speedway en Europe, voilà. Le dirt track, c'est la même chose. Effectivement, ça tourne toujours à gauche. Il a jamais ça tourne à droite. Moi, je pense pas que ce soit ça, mais bon,
honnêtement, de confiance hein, circuit des Amériques, Austin, c'est un circuit compliqué, il faut du courage et il faut de la confiance dans la moto et c'est là-dessus qui fait la différence par rapport aux autres pilotes.
Et je vais te faire plaisir aussi Benoît, comme c'est un circuit bien qu'il soit récent mais à l'ancienne, c'est-à-dire avec des montées, des dénivelés, des plongées énormes,
surtout
un circuit pour monter énorme
des brokers.
C'est vraiment un raidillon, hein, c'est le raidillon de l'eau rouge, quoi, on peut le dire, pour gros cœur, ou d'ailleurs, à l'époque, Herman Tilke a repris des portions de circuits européens. Donc, un peu de Silverstone, un peu de Spa, un peu de Suzuka, et il a fait ce circuit qui est magnifique de la vie de tout le monde. Donc, je pense que, c'est un circuit, c'est un théâtre formidable pour le meilleur pilote du monde qui s'appelle Marc Marquez.
C'est quand même hallucinant, cette raidillon. Ah, toujours en pôle, toujours vainqueur. Donc, on verra si ça se confirme.
Le reste de la grille?
Ouais, le reste de la grille. Valentino Rossi, lui aussi, c'est un champion d'exception.
Il
est deuxième sur la grille.
Inoxydable.
Première ligne est complétée par Kyle Crutchlow. En deuxième ligne, on aura Jack Miller, Paul Espargaro, Maverick Viñales. Fabio Quartararo est encore là, puisqu'il termine neuvième de ses qualifs, ce qui est plutôt pas mal. Et nouvelle qualif compliquée malheureusement pour Johan Zarco qui lui partira 19e.
La confiance ne vient pas et juste un mot, ce qui est plus embêtant pour Johan, encore une fois j'ai eu l'occasion de discuter assez longuement avec lui des problèmes qu'il rencontrait et ils sont multiples. En fait je lui ai dit mais c'est le moteur, il me dit oui c'est pas tout à fait ça, il est moins utilisable, il est moins puissant mais c'est pas forcément ça. Bon, je lui ai dit mais c'est le châssis, on sait que c'est un châssis tubulaire à la différence des autres qui sont des châssis monocoques. Il me dit oui, moi c'est pas l'option que j'aurais choisi et surtout Paul Espargaro avec une KTM, lui fait le cinquième temps.
S'il savait, il en serait probablement plus là.
Mais bien sûr.
C'est ça le problème. Alors, on avait identifié le vrai souci. Je pense que c'est une addition de choses.
Absolument.
Et puis, quand on voit Paul Espargaro cinquième avec la KTM, d'ailleurs très joyeux à la fin des qualifs, c'était une vraie belle performance. Ça doit être dur pour Johan psychologiquement.
Et là aussi, on peut dire une chose. Il n'est pas devenu mauvais. C'est absolument impossible. Alors qu'il était d'une rapidité phénoménale. Donc, la moto ne correspond pas. Or, c'est une question de feeling. Je rappelle que le pilote est prépondérant dans le rendement d'une machine en Grand Prix moto. Il va lui falloir du temps, il le sait. Il a un contrat de 2 ans, il va travailler, puis petit à petit, il va faire sa moto comme il le voudrait, mais ça va prendre un peu de temps. Je crois qu'il faut pas être impatient.
Puis un Grand Prix de France qui arrive finalement assez rapidement, et ça c'est une échéance évidemment à laquelle tient beaucoup Johann Zarco. On sait que il avait pas été finalement si loin de l'emporter l'année dernière. Il était parti en pôle.
Il avait la pole. Il avait chuté.
Et arriver avec ce peu de confiance et ce peu de résultats sur son Grand Prix national, ça doit quand même
pas
peser.
Il se met trop la pression, malheureusement. Quoi, c'est un, faut qu'il le prenne là pour le coup pour un Grand Prix comme un autre, parce que sinon il va enchaîner lui aussi peut-être les déceptions. Et surtout, il ne se blesse pas. Surtout parce qu'à moto, c'est quand même très présent. Ça aussi, qu'il reste sur ses roues, il accumulera de l'expérience et puis, la route est longue, ça c'est clair.
Il y a deux garçons qui se sont ratés également, c'est Jorge Lorenzo, encore une fois, qui a beaucoup de mal avec sa Honda, qui était parti à 11e, et puis Andrea Dovizioso, qui est loin lui aussi, il est 13e, donc il y a pas mal de surprises, mais Marquez est en pôle devant Valentino Rossi et Cal Crutchlow. Un petit mot juste avant de passer à l'IndyCar de Moto 2 et de Moto 3.
Oui.
Moto 2, c'est Marcel Schrotter qui partira en pôle position, il a tout dominé, des premiers essais libre jusqu'à la qualif, c'est lui qui a été le plus rapide. Il part devant Alex Marquez, le petit frère de Marc Marquez et Sam Loves. Et puis en Moto 3, la pole pour Nicolo Antonelli, l'italien, devant Raúl Fernández. Petit échec pour le japonais Keito Toba, qui est le leader, mais qui a signé le 24e temps. Il s'est complètement manqué en Moto 3. Voilà.
L'IndyCar.
L'IndyCar, évidemment.
L'IndyCar.
Eh oui, c'est l'autre portion de Jean-Luc Roy avec les chemises.
À Long Beach, en plus.
À Long Beach,
c'est l'autre passion de Jean-Luc Roy avec l'IndyCar et les chemises.
Adapté au décor,
la chemise, la Harley, sur les routes de Californie.
Nickel. Attends, tu l'as pas vu tout à l'heure, je suis obligé de faire cette parenthèse. Mais tout à l'heure, en plus de la chemise, dans la rédaction, au troisième étage, il a mis les lunettes de soleil. Et alors là,
j'aurais pu arriver comme ça, mais bon.
C'était Starsky et Hutch. Les deux à la fois.
Et vous savez qu'il est très souvent en Floride à Miami, et qu'à Miami, on n'est pas obligé de mettre un casque sur une moto. Donc
non, mais moi j'en mets un là pour le coup, j'en mets
sans casque et les lunettes. Tu as bien raison d'ailleurs.
Oui,
l'IndyCar, c'est donc Long Beach, on a la grille de départ avec la pole position comme l'an passé d'Alexander Rossi,
le petit frère de Valentino.
Non. Ou alors le talent n'est pas
parfait.
C'est pas le même
pour. Il est américain.
Exactement. On a une première ligne d'ailleurs 100% Honda puisque le deuxième c'est Scott Dixon. Après, les Penske sont bien comportés également, et la bonne nouvelle pour Simon Pagenaud qu'on retrouve enfin à des places d'honneur puisqu'il partira cinquième sur la grille, Jean-Luc.
Écoute, c'est bien parce que Simon, pareil, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui il n'y a pas très longtemps. En début de saison, il sentait pas sa machine complètement par rapport aux autres pilotes Penske qui étaient plus performants que lui, Will Power notamment et Newgarden bien sûr. Là, il semble qu'il ait trouvé. Bon, c'est un circuit très particulier également, Long Beach, circuit d'attaque, un circuit en ville qui a été le cadre de Grand Prix de Formule 1 il y a quelques années maintenant, mais c'est un très beau circuit, très sélectif. Écoute, c'est pas mal. Alors ça va un peu moins bien, je pense que tu vas nous en parler, de Seb.
Ouais, 14e.
Alors, 14e, il était monté sur le podium lors du dernier Grand Prix, 3e, là, effectivement, et puis il n'était pas dans le coup depuis le début. Espérons qu'en course, il peut se produire plein de choses.
Merci, Monsieur Roy.
Avec plaisir.
Merci, Monsieur Tanvé.
Merci, les amis.
À tout de suite, Benoît Boudron, dans l'Intégral Sport qui arrive avec Christophe Cessieux. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure à 16h. Restez bien avec nous cet après-midi. Le programme est magnifique, du rugby, du vélo et du foot. Belle journée sur RMC.
RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.